Europe 1.
Vous écoutez votre grand journal du Star avec jusqu'à 19h le grand débat des grandes voix. Avec vous Sébastien Crève ce soir, il y a Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Guillaume Goubert, directeur général de la Croix.
Et vous avez évidemment tous votre mot à dire, vous qui nous écoutez, 39-21. Vous venez échanger avec nous également sur les réseaux sociaux avec le mot-clé, le mot dièse. Europe 1, la ministre des Transports en pleine crise sociale qui voyage à Marrakech, est-ce que ça vous fait réagir? Vous venez en parler avec nous, on parlera aussi de Ségolène Royal. D'abord, Noël à Rome, le message du pape François. Je commence avec vous Guillaume Goubert, bonsoir, bienvenue dans les grandes voies. Votre journal La Croix suit très près le Vatican. Qu'est-ce que vous avez retenu du message de Noël du pape aujourd'hui?
Le cœur de son message, c'était d'annoncer la lumière que représente pour le monde la naissance du Christ qu'on fête le jour de Noël, et de dire que cette lumière pouvait être un encouragement pour tous les hommes pour essayer de faire advenir un peu plus de lumière dans ce monde.
Il a cité un certain nombre de conflits avec un message de paix. C'est assez classique pour un message de Noël, finalement.
C'est la forme classique, effectivement, où il passe en revue les points chauds de la planète, avec, en commençant par la Terre Sainte, le lieu même de la naissance du Christ, qui est aujourd'hui... qui reste dans une tension très forte. Mais effectivement, il a parlé du Yémen, il a parlé de l'Irak, il a parlé du Venezuela, de l'Ukraine. Et pas mal de situations en Afrique également, avec ce qui s'est passé au Burkina Faso la veille de Noël, avec une attaque islamiste qui a fait des dizaines de morts. Toute la difficulté à laquelle il est confronté, comme ses prédécesseurs chaque année, c'est d'essayer d'annoncer une parole, de prononcer une parole d'espérance dans ce monde qui ne va pas bien.
Alors, il parle de la Syrie notamment, et il appelle la communauté internationale à garantir la sécurité au Moyen-Orient. C'est un appel aux Occidentaux, Charles Villeneuve ?
Mais ce sont les Occidentaux, enfin pour moi, qui sont entièrement responsables du début de l'exode des Arabes chrétiens. Il ne faut pas oublier que ce sont des Arabes chrétiens, et il faut le préciser ou le rappeler. Vous savez, à la fin du XXe siècle, entre la première guerre du Golfe et la deuxième en 2003, on a mis fin, surtout la coalition occidentale et la coalition anglo-américaine dans la deuxième guerre du Golfe en 2003, a mis fin à ce qu'on a appelé le panarabisme. Le panarabisme, c'était un mouvement, si vous voulez, initié par le colonel Nasser en Égypte, et qui faisait que c'était faire primer l'appartenance nationale sur l'appartenance religieuse. C'est-à-dire qu'on était d'abord égyptien, qu'on était irakien, qu'on était syrien, qu'on était jordanien avant d'être musulman, sunnite ou chiite, chrétien de rite grec orthodoxe ou de rite grec catholique, ou etc., etc.
Et aujourd'hui, c'est l'identité religieuse qui a pris le dessus.
Ce mouvement est mort parce qu'il a permis, de toute façon, la résurgence, si vous voulez, d'un autre mouvement des frères musulmans qui était en léthargie quasiment depuis 1920, et le passage du colonel Nasser. Et puis, à part ces guerres, lorsqu'on a pendu à grand spectacle le président Saddam Hussein, lorsqu'on a mis fin, si vous voulez, à tous ces dictateurs, certes, qui s'inspiraient du panarabisme, on a ouvert les portes à Al-Qaïda et puis ensuite à Daesh. Quand les Américains, le préfet américain, si vous voulez, qui représentait le gouvernement américain à Bagdad, a dissous l'armée irakienne, il a fait partir en quelque sorte quasiment toute la hiérarchie de cette armée irakienne vers Daesh, tous les sous-officiers.
Avec ce que ça implique sur la sécurité des chrétiens d'Orient. Gérard Carrérou, vous retenez quoi, vous, du message d'aujourd'hui?
Je vais vous dire, je retiens des belles paroles, bon, au fond, une analyse géopolitique qu'on peut partager. Donc tout ça, j'ai rien à redire, si vous voulez. Ce qui m'interpelle le plus actuellement, c'est que le message, pour qu'il soit crédible, il faut que l'Église, que l'homme qui incarne l'Église aujourd'hui, que l'Église soit crédible. Or, moi je suis catholique, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, la parole de l'Église est affaiblie aujourd'hui, à travers la parole du pape. C'est le fonctionnement même de l'Église. Il essaye de régler un problème d'organisation de l'Église, de la curie, de réforme, etc. Il a nommé il a nommé des proches à des postes importants. Mais je pense que globalement, c'est l'époque de la monarchie absolue pontificale et de l'oligarchie qui l'entoure qui crée un problème. Au fond, les gens, il y a des pans entiers de gens qui ne se reconnaissent plus beaucoup. Et la pédophilie a mis l'accent sur beaucoup de problèmes. Mmh. La pédophilie a discrédité énormément l'Église. Et il y a des tas de gens, je commence par les femmes. Les femmes et les laïcs se sentent assez peu, ou je ne vais pas dire maltraités, mais assez peu traités dans ce qu'est l'Église aujourd'hui. Et je pense que le pape a beau avoir effectivement un beau discours. Parfois, je me dis, tiens, c'est
on
un
n'oublie
vrai...
pas cet aspect-là.
Voilà, il faut quand même que l'institution qu'il incarne est affaiblie. Elle est concurrencée sur tous les continents. Elle est concurrencée en Afrique. Elle est concurrencée en Asie. Les protestants ici, l'islam ailleurs. Mmh. Et donc, il faut redonner plus de force à l'Église si on veut que le message de l'Église, le message du pape passe mieux. Je sais pas si
Guillaume Gobert, ce pape François qui a bousculé certains codes en arrivant au pouvoir, il est affaibli aujourd'hui ?
Disons qu'il a une opposition relativement forte et qui s'est pas mal structurée, qui s'est pas mal manifestée, ce qui est assez rare dans l'histoire récente de l'Église que des personnes ayant de hautes responsabilités, comme évêques, comme cardinaux, etc., disent clairement qu'ils sont en opposition par rapport au pape. C'est ce qui se passe actuellement. Donc, il y a effectivement, le pape mène actuellement, prépare un certain nombre de réformes. Il a du mal à les faire accepter par le monde qui l'entoure à Rome. L'histoire n'est pas terminée. Il va certainement se jouer cette année, dans l'année qui vient, quelque chose d'important de ce point de vue-là, de voir...
Sur quel sujet ?
Bah, notamment de publier un nouveau texte une sorte de constitution du Vatican, avec des règles de fonctionnement de l'administration du Vatican, et il prépare des bouleversements relativement importants. Comme l'a dit Gérard, il vient de procéder à des nominations qui sont tout à fait importantes. Voilà, s'il arrive à faire passer les réformes sur lesquelles il travaille actuellement, sans doute on entrera dans un autre chapitre de l'histoire de l'Église.
Il y a des résistances fortes. On comprend dans ce que vous dites qu'il y a des résistances.
Mais je trouve quand même que c'est un pape qui en fait plus que tous ses prédécesseurs sur plusieurs plans et qui communique assez bien sur ce plan-là, ne serait-ce que sur la lutte des abus contre les abus sexuels, etc. Le pape, son prédécesseur, le cardinal Ratzinger, Benoît XVI, avait déjà commencé, mais lui va plus loin.
Il a une meilleure image dans le monde, le pape François, par rapport au pape Benoît XVI ?
Oui, il a certainement une meilleure image. C'est quelqu'un de
toujours
de
aujourd'hui
beaucoup plus charismatique, qui a un contact avec la foule qui est beaucoup plus fort que celui de Benoît XVI, dont ce n'était pas le talent principal. Mais le fait est que, comme l'a dit Gérard Carrérou, c'est vrai que cette église traverse actuellement une crise grave, sans doute la plus grave qu'elle ait connue depuis plusieurs siècles. Et ce ne sont pas des crises dont on sort du jour au lendemain. Mais l'église a une très très longue histoire et je pense qu'elle peut surmonter cette crise comme elle en a surmonté d'autres. Il y a un bon mot que je cite souvent, et justement je l'ai entendu pour la première fois dans la bouche du cardinal Ratzinger. C'était à l'époque de Napoléon, quelqu'un était venu voir le secrétaire d'État de l'époque, c'est-à-dire en quelque sorte le premier ministre du pape, et lui avait dit « Éminence, c'est très grave, Napoléon veut détruire l'Église ». Et le cardinal en question, le cardinal Consalvi, avait répondu « Oh, vous savez, nous n'y sommes pas parvenus nous-mêmes ». C'est-à-dire que c'est vrai que tout au long de son histoire, l'Église a traversé des crises très graves, souvent du propre fait de ses membres, et chaque fois, elle s'est reconstruite. Donc voilà, on est à l'orée d'une période de reconstruction.
Jacques est avec nous au 39-21. Bonsoir Jacques.
Oui, bonsoir.
Merci de nous rejoindre pour dialoguer avec les grandes voix.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de ce pape ?
Ben écoutez, moi j'en pense beaucoup de bien. Et je viens d'entendre là, on dit que l'Église traverse une crise, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus en rajouter. Car l'Église sait se battre, et il y a 2000 ans qu'elle se bat, elle s'en est toujours sortie, elle s'en sortira. Maintenant, si on dit que l'histoire de la pédophilie, etc., affaiblit l'Église, moi, je ne le pense pas vraiment, pour la bonne raison que la pédophilie, c'est un phénomène de société, il y en a partout, il y en a dans l'armée, il y en a dans l'enseignement public, etc., etc. Donc, je pense que, et ce que j'ai dit l'autre jour lors du débat avec Monseigneur Barbarin, sur Monseigneur Barbarin, j'ai dit que l'Église, actuellement, est la seule institution qui se remet en question sur ce problème-là. Parce que le reste, bon, c'est un peu caché, planqué, etc. Voilà, voilà ce que je pense là-dessus.
Merci Jacques de nous avoir joints au 39-21. Alors, le pape, il a quand même parlé de ce recul de l'Église et sur un ton assez alarmiste, c'était il y a quelques jours, hein, devant la curie. Il dit « Nous ne sommes plus en chrétienté, nous ne le sommes plus, nous ne sommes plus les seuls aujourd'hui, par exemple, à produire de la culture, ni les premiers les plus écoutés. » L'Église recule partout.
Elle recule là où elle, enfin, dans des continents où elle était très forte. Effectivement, par exemple,
les églises évangéliques, par exemple,
donc qui sont des églises protestantes à la base, ont une un attrait apparemment extrêmement important en Afrique, mais aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, l'Église protestante, les différents...
Même en Amérique du Sud.
Donc, dans ces endroits, dans ces points de force, et c'est d'ailleurs pour ça, je crois que c'est un peu le risque aussi en Asie, où il y avait des positions très fortes. Je crois que c'est pour ça, par exemple, qu'il a nommé un cardinal philippin qui est proche de lui, parce que les Philippines, c'est un des bastions. On disait que la France était la fille aînée de l'Église. Aujourd'hui, on pourrait dire que ce sont les Philippines ou quelques autres pays, je parle sous votre contrôle, des bastions de l'Église. Mais je pense, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait un beau discours. On m'a dit un jour, un ancien ambassadeur de son pays, qui l'avait bien connu, étudiant, m'a dit, au fond, vous savez, c'est un péroniste de gauche. Le pape, non seulement c'est un jésuite, mais c'est un péroniste. Il a fait ses études à l'époque où le général Péron était le dictateur. Mmh. Mais un dictateur qui était un dictateur très, très avancé vers les masses populaires. D'ailleurs, c'est pour ça que sa femme était l'icône des foules, enfin, les sans-chemises.
Un populiste,
voilà, une forme de populisme. Je pense qu'il a repris... Quand on le décrit, on dit en général, oui, c'est un jésuite. On décrit le jésuite, mais on oublie un petit peu.
C'est un jésuite
de ce pays, de cette culture-là.
Juste un dernier mot, Guillaume Goubert, il appelle à un changement d'époque, le pape, en parlant de ce recul de l'Église. Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Il veut dire qu'effectivement, il y a un certain modèle d'Église qui fonctionnait depuis le Concile de Trente, c'est-à-dire depuis la séparation avec les protestants, il y a cinq siècles, qui a fonctionné remarquablement bien jusqu'à maintenant et qui ne fonctionne plus du tout bien. Et donc, il faut inventer d'autres choses. Il a réuni récemment une réunion d'évêques importante à propos de l'Amazonie pour réfléchir à comment ordonner prêtres des hommes mariés ou des choses comme ça. Il y a un rôle des laïcs qui va être beaucoup plus important, un rôle des femmes qui va être beaucoup plus important. Mais voilà, le passage d'une église qui était très structurée par le clergé à une église où le rôle des laïcs va être beaucoup plus important, c'est un passage assez compliqué, assez difficile.
Elle doit changer, l'église, aujourd'hui.
Elle va changer.
Et elle va changer. Guillaume Goubert du journal La Croix avec Charles Villeneuve et Gérard Carré, où les grandes voix reviennent dans un instant.
18h20, vous écoutez Sébastien Krebs, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. À tout de suite. 18h47, vous écoutez Repensez votre grand journal du soir avec jusqu'à 19h Sébastien Krebs, le débat des grandes voix autour de vous ce soir. Sébastien, il y a Charles Villeneuve, Gérard Carreau et Guillaume Goubert, directeur général de La Croix.
Et on en vient au deuxième sujet qui nous occupe ce soir. Est-ce la polémique qui peut potentiellement pourrir la rentrée du gouvernement? On en parlait tout à l'heure dans le journal de 18h. Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique qui est en charge des transports, part en vacances en pleine grève à la SNCF, en vacances au Maroc. Elle fête Noël à Marrakech. Avis très partagé. On a entendu beaucoup de réactions aujourd'hui. Selon vous, maladresse, faute ou non-sujet?
Écoutez, je vais reprendre une phrase. Je cherchais, je ne sais plus si c'est Pompidou ou Mitterrand. Enfin, c'est quelqu'un d'important dans la politique de notre pays, mais d'il y a longtemps, qui avait eu cette phrase. Quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Bon, c'est facile, mais j'ai pensé immédiatement à ça en entendant. Je me suis dit quand même, Madame Borne, qui est un ministre important, un des piliers de ce gouvernement depuis 2 ans...
C'est la plus concernée par la séquence
qu'on
vit.
C'est la plus, absolument, tu as raison. C'est elle qui est directement concernée en tant qu'elle assure la tutelle, effectivement, des transports, même si on nous dit qu'elle a un secrétaire d'État depuis 4 jours ou depuis une semaine.
Jean-Baptiste Djebbari, qui lui est resté à Paris,
elle est en charge, quand même. Elle est en charge. Il y a un conflit important. il dure depuis 3 semaines. On se demande s'il va durer encore 2, 3, 5 semaines de plus. Tout le monde en parle, tout le monde est concerné, tout le monde a eu éventuellement des difficultés là ces derniers jours. Et la ministre en charge part en vacances au Maroc. Bien sûr, le ministre a droit à des vacances comme tout un chacun. Mais écoutez, dans les entreprises, il se trouve, Charles et moi, par exemple, on a dirigé des grandes rédactions. Et quand il y avait des moments d'intensité, des grands, on se dit pas qu'on va partir en vacances. À ce moment-là, on dit, bon, je devais partir avec ma femme au Maroc. Eh ben, tant pis, on ira dans 2 mois ou on n'ira pas. C'est pas possible. Et les gens, déjà, il y a eu la malencontreuse affaire.
Pendant que les familles avaient du mal à se réunir pour Noël.
Ont du mal à se réunir pour Noël. C'est pas possible, ça, de dire, bah, le ministre, lui, il n'a pas de problème, il prend l'avion.
Non, ce qu'il faut.
Bien sûr, c'est pas une affaire d'État. C'est pas ça qui va changer le destin. Non. Mais c'est une maladresse supplémentaire par rapport à Delevoye.
Oui, moi, ce qui m'intrigue, c'est que Emmanuel Macron a dit, il faut rester sur le pont.
Il avait donné des consignes.
Il faut rester sur le pont. Bon. Selon la consigne présidentielle, à tout le moins, c'est rester sur le territoire national. On est d'accord. C'est une question de posture, c'est symbolique. C'est pas une affaire d'État, en effet, tu as raison.
Oui, c'est 2 heures d'avion.
Ça
ne
va pas changer complètement la nature des négociations et ni faire revenir, si vous voulez, à raison, soit les uns, soit les autres. Ce n'est pas le sujet. Mais par rapport à la consigne du chef de l'État et par rapport au portefeuille dont elle a la charge, je pense que sa posture aurait dû être de rester là. Bon,
et Matignon la défend aujourd'hui en disant que cette...
Mais parce qu'il savait.
Et qu'ils ont validé cette destination.
Que chacun dit de toute façon au patron où on va, et notamment au chef du gouvernement. Mais bon, certains de toute façon vous disent « Oui, mais le président de la République est bien à Brégançon. » Mais Brégançon, c'est une succursale de l'Élysée. Il faut savoir comment c'est équipé. C'est même défendu par, c'est à 2 pas de chez moi, en tout cas, de hier. Il a un héliport sur le rocher de Brégançon. Il est à 6 minutes de l'aéroport
de Toulon.
Et
c'est pas la même chose en termes d'image.
Il a même les commandos marines du fameux commando Hubert de Saint-Mandrier qui sont là autour du rocher.
Juste à côté. Guillaume Goubert. Du journal La Croix. Maladresse de com, essentiellement.
Oui, maladresse. Et je dois dire que ce qui est quand même étonnant, c'est que c'est quand même pas la première affaire du genre. Bon, il y a eu Delevoye tout récemment. Il y a eu aussi ce qui s'était dit autour d'un prédécesseur de Madame Borne, François de Rugy, sur un certain...
Les dîners.
Certains dîners, etc. Que les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques en France n'aient pas une conscience plus claire de ce qui peut choquer l'opinion et qu'ils leur imposent, parce qu'ils ont choisi ce métier-là, une forme de sacrifice, parce que renoncer à des vacances, à un grand week-end à Marrakech, j'imagine que c'est... Enfin, je veux dire, tout le monde peut... Chacun le regretterait, mais dans son cas, dans les fonctions qui sont les siennes en ce moment, ça paraît très surprenant.
Est-ce que Matignon aurait dû retoquer cette destination ?
Ouais, je pense.
On sait si d'autres ministres sont à l'étranger aujourd'hui.
Et d'ailleurs, elle a été retoquée, puisqu'on a annoncé quand même cet après-midi que le voyage serait écourté et qu'elle serait de retour dès la fin du week-end.
Elle sera intégralement à son bureau la semaine prochaine. Ce que j'aime bien, c'est intégralement.
Les syndicats
intégralement à Marrakech.
Voilà. Un syndicat dans le journal de 18h disait c'est la preuve que le gouvernement, finalement, joue le pourrissement, joue la longueur et qu'il ne se passera rien pendant Noël, que la ministre peut bien partir en vacances, puisque de toute façon, il n'y a plus de négociations.
J'avais pas pensé
avant la première semaine de janvier. Ce scénario-là.
Ça peut être une interprétation.
C'est un assez bon argument.
Oui, effectivement, il ne se passera rien. D'ailleurs, on avait souligné ici à ce micro, on avait dit, c'est quand même bizarre qu'on nous annonce simplement qu'il y aura du nouveau vers le 7 janvier. C'est quand même...
Prochaine réunion, 7 janvier.
Les syndicats ont fait la même chose. Ils ont annoncé des manifs pour le 9
janvier. Donc, il y a un consensus.
Il y a une espèce de consensus implicite sur le fait qu'on ne ferait rien pendant les fêtes.
Les deux parties jouent le temps long. Les deux parties, les syndicats et le gouvernement.
C'est la guerre d'usure dont on parlait. Georges est avec nous au 39-21. Bonsoir Georges.
Oui, bonsoir.
Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ?
Regardez, moi personnellement, je pense qu'il y a un problème. C'est qu'en réalité, on est dans une période troublée. Voir un ministre partir comme ça à Marrakech, passer les vacances de Noël, ça peut se comprendre dans une période tout à fait calme. Mais là, je pense que quand même, son devoir, ça aurait été de rester et de pouvoir... donner l'impression que le dossier avance. Alors que là, on a l'impression que le dossier est retenu jusqu'au 10 ou 15 janvier.
au moins donner l'impression. Dommage. Donc on est sur de la com.
C'est une, voilà.
C'est
une,
c'est un affichage.
C'est une posture.
Qui n'est pas opportun. C'est ce que vous nous dites. Merci, Georges.
Ah ben, bah, tout à fait. Exactement ça. Mm. Et je trouve que c'est dommageable parce qu'en fait, on a l'impression que par ce biais-là, le gouvernement affiche une image de temporiser, de pouvoir laisser pourrir la situation. Ah bah oui, et je pense que c'est dommageable.
Mm. Merci, Georges.
Ouais. Je vous en prie.
À très vite dans les grandes voies. Il nous reste quelques minutes pour évoquer l'autre polémique du jour. Décidément, il n'y a vraiment pas de trêve avec Ségolène Royal. Les députés lui demandent des comptes. Deux députés qui veulent qu'elle soit entendue devant l'Assemblée nationale, devant la commission des affaires étrangères, pour s'expliquer sur l'utilisation de ses moyens d'ambassadrice d'épaule. C'est Emmanuel Macron qui l'avait nommée à ce poste. Elle a récemment été épinglée par différents médias parce qu'elle utiliserait ses moyens pour... En gros, pour faire sa promo personnelle, c'est bien qu'elle doive rendre des comptes devant l'Assemblée qui commence.
Ah bah oui, je pense qu'effectivement, c'est un peu comme le chapitre précédent. Je veux dire, les hommes et les femmes politiques ont des comptes à rendre sur les moyens dont ils disposent. Et si, je crois que c'est une fonction qui est non rémunérée, mais elle bénéficie de plusieurs collaborateurs.
Trois.
Si ces moyens ne sont pas dévolus à la mission qui est la sienne, je suis désolé, il y a un problème. Et peut-être qu'autrefois, ça se passait, je crois d'ailleurs qu'autrefois, ça se passait souvent comme ça. On trouvait des ganches, si j'ose dire, pour permettre à des personnes de... plus ou moins en semi-retraite, de bénéficier de moyens pour continuer leurs activités. Je pense que notre époque ne s'y prête absolument plus et je pense que c'est tant mieux.
Mmh. Il y a une dimension politique aussi indéniable. Elle ne cesse de fustiger la réforme des retraites par des déclarations et des tweets assez explicites.
Et elle se voit déjà aussi comme candidate pour 2022, un petit peu.
Voilà, mais le problème évoqué par notre camarade Delacroix est assez important aussi, en ce sens où aucune des quatre grandes réunions, elle ne s'y est rendue. C'est-à-dire par rapport à son emploi, qui est d'être chargé de la négociation pour les pôles arctiques et antarctiques.
Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les députés, au-delà de l'entendre et de lui poser des questions? Elle est nommée par le président de la République.
Il y a une confusion dans l'esprit des gens. Pour les gens, ambassadeurs auprès des pôles, moi, je me souviens quand Michel Rocard a eu ce poste. Michel Rocard, je crois, l'a occupé véritablement.
Oui, visiblement, il avait beaucoup de plaisir, notamment à aller sur les pôles.
Il s'intéressait au fond des choses. Il l'a donc occupé bien. Mais quelque part, on est ambassadeur de la République française. Même si on n'est pas rémunéré, on n'est pas au Quai d'Orsay, mais on a quand même une responsabilité. On ne peut pas à la fois continuer sa carrière politique comme si de rien n'était. Or, manifestement, et vous l'avez rappelé, Ségolène Royal continue... Elle s'est déclarée...
Non, mais elle a un devoir de réserve en tant qu'ambassadrice.
Voilà, elle devrait avoir un devoir de réserve.
Et c'est là-dessus qu'elle va être aussi épinglée.
C'est le point, notamment, qui avait sorti un certain nombre de choses. Oui. Elle multiplie les inaugurations, notamment. Elle fait la promotion de son livre.
Elle est effectivement absente
des interventions médiatiques. Souvent, dans chaque déplacement, en tout cas, elle se déplace avec les personnels qui lui sont attribués pour ce rôle d'ambassadrice d'épaule. Voilà ce qui était pointé. On est toujours sur l'exemplarité.
Exactement. Mais de plus en plus.
Il y a André au 39-21 qui nous dit je ne crois pas en la fibre écolo de Ségolène Royal qui a simplement trouvé en l'écologie un créneau porteur pour survivre en politique. Une petite réaction chacun pour finir. Guillaume Goubert.
Oh, je pense que non.
Elle est sincère, Ségolène Royal, sur l'écologie.
Le jour de Noël, on ne peut pas être méchant.
C'est une des personnalités politiques en France qui a le plus tôt parlé de ces questions-là. Qu'elle en fasse un levier politique, je veux dire, quelle personnalité politique ne fait pas ça plus ou moins quand même.
Elle avait démenti toutes ces attaques, Ségolène Royal, je le précise, elle disait insinuations calomnieuses, des attaques lancées comme par hasard, disait-elle au moment où elle apparaît dans les sondages la mieux placée pour relever le défi de la gauche à l'élection présidentielle.
Elle en profite pour nous placer
2022.
Ça, oui.
Voilà, merci beaucoup les grandes voix d'être venues en ce soir de Noël. Guillaume Goubert, directeur général de La Croix, merci beaucoup de nous avoir rejoints avec Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Belle soirée à vous trois.